Bonjour, bienvenue à l'écoute de l'émission Musique de film dans Vive le cinéma sur Aligre FM, conçue par Benoît Basiricou en partenariat avec Cinésique.fr. Une question au programme aujourd'hui, la musique comme une voix. Elle peut être la voix intérieure d'un personnage ou encore une voix comme instrument de la partition, de l'instrumental à la chanson. En compagnie de Benjamin Esdrafo, bonjour.
Bonjour.
Vous avez écrit cette musique d'un fabuleux film d'Axel Rupert sorti cette semaine, Petite Solange. Et on le verra, votre musique est véritablement la voix intérieure de cette jeune fille qui assiste au divorce de ses parents, et on est vraiment de son point de vue pendant tout le film, avec cette note mélancolique comme ça qui se perpétue, une musique au service du personnage en quelque sorte. Et nous accueillons également Xavier Polycarpe, bonjour.
Bonjour.
Vous avez écrit la musique de Animal, un documentaire de Cyril Dion sur la question animale justement, et visée écologique, et vous avez parmi vos instrumentaux également composé des chansons, et les chansons, comme Benjamin d'ailleurs, font partie vraiment aussi de votre activité. Nous y reviendrons.
Nous n'écoutons probablement pas les mêmes chanteurs. Personnellement, j'aime beaucoup l'opéra.
Une première sélection musicale, ici de notre bilan 2021, à retrouver d'ailleurs sur les podcasts de Cinésique.fr. Une présence vocale pour un personnage torturé, Titane, musique de Jim Williams, film de Julia Ducournau, musique donc originale de Jim Williams, qui retrouve la réalisatrice après Grave, et une présence vocale donc qui illustre l'aventure extrême du personnage, d'abord femme serial killer, puis fils adopté. En quelque sorte, cette présence vocale institue une messe noire comme un envoûtement, et illustre le parcours émotionnel du film avec de plus en plus d'émotions, car le film est aussi une quête d'amour. Titane, musique de Jim Williams. À l'instant, musique de Frédéric Alvarez, qui fait comme Titane partie de notre Best of DBO 2021, à retrouver en intégralité parmi les podcasts de Cinésique.fr. Une présence vocale également ici, de premier plan, qui représente cette enfance, cette jeune fille qui se souvient de sa Normandie, un film entre ruralité et nostalgie du monde paysan, avec cette enfance et cette présence vocale. Donc, film de Hubert Viel, magnifique donc en 2021. Et d'ailleurs, il y a probablement un lien entre cette louloute et cette petite soleil Solange. Et là, je me dirige vers Benjamin Esdrafaux. Bonjour.
Bonjour.
Rebonjour. Et donc, vous retrouvez cette réalisatrice, Axelle Repère, que l'on accompagne progressivement de tirer la langue Mademoiselle à la prunelle de mes yeux, avec votre musique, hein, qui est un peu aussi la petite musique du cinéma d'Axelle Repère. Il y a un peu cette idée pour traduire ses obsessions, traduire son univers. L'idée d'un compositeur de film, hein, est davantage de faire la musique du réalisateur, de la réalisatrice en l'occurrence, plutôt que sa propre musique, vous-même, ayant aussi votre propre musique par ailleurs.
Oui, alors là, en plus, pour ce film en particulier, Axelle voulait beaucoup plus de musique que d'habitude. Enfin, généralement, quand il y a moins de musique, c'est quand même un gros boulot. C'est pas parce qu'au final, il y en a moins qu'il n'y a pas eu beaucoup de propositions. On s'en suit, c'est des choix d'en mettre plus ou moins. Là, dès le départ, comme c'était un mélo, elle voulait plus de musique. Et vous disiez, voix intérieure du personnage, c'est pas tout à fait comme ça, évidemment, que nous, au moment de la conception, on l'a pensé. D'ailleurs, le thème qu'on avait en amont du film, le thème du générique qui se trouve finalement être un peu le thème de Petite Solange, c'est quelque chose qui s'est trouvé assez tard. Et avant, on était plus sur un thème très douloureux. D'ailleurs, on avait appelé ça le thème de la douleur. Et à partir du moment où on a trouvé ce thème, ça a effectivement permis de recentrer la musique sur le personnage. C'est aussi en voyant le film, parce que l'actrice est tellement extraordinaire, vibrante et sensible, que le travail un peu naturellement s'est recentré sur le personnage de la jeune fille. Enfin, même si de toute façon, dès le départ, c'était l'héroïne.
Voilà. Petite Solange donc, est dans les salles depuis le 2 février dernier, de Axelle Repère, avec donc Léa Drucker et Philippe Catherine, qui sont les deux parents en instance de divorce. Et puis cette jeune fille, donc incarnée magnifiquement par Jade Springer. Et Benjamin, vous êtes avec Axelle Repère, finalement, avant même de discuter musique tous les deux, vous venez un peu d'une cinéphilie quelque part. Vous étiez vous-même critique de cinéma, également assistant réalisateur sur les films d'Axelle et de Serge Boson. Formation de piano classique, vous avez accompagné par exemple Barbara Carlotti. Donc entre la musique et le cinéma, est-ce que justement cette collaboration avec Axelle Repère, c'est d'abord parler de cinéma avant de parler de musique?
On parle de cinéma, mais maintenant que je me suis spécialisé dans la musique que je fais vraiment que de la musique de film, parce que j'ai été assistant d'Axelle, sur un court-métrage, j'avais été un petit peu assistant de Serge Boson. Enfin, elle m'envoie son scénario, et puis on a une base de référence commune. Pour l'emploi de la musique de film, par exemple, moi je n'ai pas j'ai l'impression que la musique de film est un truc plus lié au cinéma américain qu'au cinéma français, parce qu'en France, on redoute un peu la musique de film, comme si la musique de film était une béquille par rapport à la mise en scène. Et ça vient aussi du fait qu'il y a eu des gens comme Bresson, comme Romer, voire comme Straub, enfin, qui voulaient pas de musique de film, ou alors quand il y avait vraiment soit quelqu'un passait de la musique à l'intérieur du plan, par exemple, ou alors Bresson, il a fait une exception avec Sard une fois. Et on avait parlé avec Axelle un peu avant ce film-là. Je l'avais dit, moi je change un peu d'avis là-dessus. Bon, évidemment, maintenant je fais composer la musique de film, donc fatalement je change un peu d'avis. Mais je pense qu'il faut accepter dès le départ, soit on ne met pas de musique, mais si on en met, il faut accepter que ce soit un des éléments du film, au même titre que l'écriture, que la mise en scène, que le choix des acteurs, que l'espace tel qu'il est représenté dans le film. Il se trouve que ça a coïncidé avec ce film où en plus elle voulait beaucoup de musique. Donc oui, on parle de film, elle, ses références en plus, là, elle avait des références qui étaient des... Il y avait au moins une référence qui était une référence de musique de film, qui était la musique de White Dog, d'Ennio Morricone. Et autrement, elle avait des références de musique qui n'avaient rien à voir avec le cinéma, qui étaient du Charles Ives, et du Darius Milhaud, des choses qu'on ne retrouve pas spécialement dans la musique au final, mais qui sont des choses qui permettent de faire le grand écart, et puis à force de se balader entre ces différentes influences, on... Voilà.
Écoutons un premier extrait de votre musique, Benjamin Esdrafaux pour Petite Solange.
Thank you.
votre musique, Benjamin Esdrafo, il y a toute l'émotion du film qui rejaillit en moi, le souvenir du film. La musique vraiment intègre tout le parcours émotionnel du personnage, ce sentiment diffus comme ça. Et quand je disais tout à l'heure que c'était un peu la voix du personnage, c'est que quelque part le personnage est en partie mutique. Ça passe moins par les dialogues justement que par les non-dits, par une humeur qui se perpétue. Et cette musique justement participe à remplacer le dialogue. Est-ce que c'est comme cela que vous l'avez pensé ?
Axel est une cinéaste qui n'a pas peur des dialogues, enfin qui a beaucoup de dialogues quand même. Ça, on est, j'ai lu effectivement de ci, de là, j'ai lu une fois que la musique pouvait remplacer un peu les dialogues. Sans doute, mais on n'est pas quand même dans un film mutique où la musique ferait tout et on aurait une sorte de pantomime en face. Ce qu'il y a, c'est qu'elle évacue un certain nombre de choses, notamment les scènes de disputes entre les parents qui sont toujours un petit peu à distance. Et là, c'est sûr que la musique prend le relais. Mais au moment où je composais la musique et où je travaillais avec elle, parce que c'est un peu travail de longue haleine, vous savez, on fait des allers-retours entre le montage et le... Voilà. Ça se construit petit à petit, mais il n'y avait pas cette idée comme ça, tiens, un peu théorique, comme quoi la musique allait remplacer les dialogues. Je pense que la musique, elle accompagne, elle amplifie ce qu'on a à l'image, et parfois peut se substituer effectivement à des choses qui seraient...
Parce que souvent en musique de film, il y a soit la musique peut être en premier plan, en charge d'émotion au premier plan, ou alors elle est en quelque part souterraine. Mm-hmm. Et j'ai l'impression que votre musique est un peu les deux à la fois, c'est-à-dire qu'elle est quand même parfois à des instants dans le lyrisme émotionnel de Mello, et quand même une rivière comme ça qui coule sous les dialogues et sous les actions. Qu'est-ce que cet entre-deux se décide au scénario? Parce que j'ai lu que vous aviez commencé le travail dès l'écriture.
J'ai toujours peur que la musique écrase le film. Et quand j'ai découvert notamment le film, je sais qu'Axel me disait qu'il voulait mettre beaucoup de musique. Et moi, je me disais, oulala. J'ai même dit, je pense, une ou deux fois, mais t'es vraiment sûr que tu veux de la musique à cet endroit-là, parce que je trouve que la scène était très très belle comme ça. Donc je crois que je me retiens un petit peu quand même aussi. Je veux pas que la musique ait un effet de signature trop affirmé. Donc faut arriver dans ce petit espace qu'on a, à la fois amplifier ce qui se joue dans une scène ou dans la couleur du film, mais évidemment ne pas écraser, ne pas se dire « Ah tiens, cette musique elle est chouette », enfin voilà, faut pas que les gens ils se... Alors c'est peut-être ça ce que vous voulez dire, c'est-à-dire que c'est une musique qui doit à la fois être émouvante et participer du film, mais c'est une musique qui doit rester à sa place, je sais pas comment le dire autrement. Il y a des très bons musiciens qui font des très belles musiques, mais où je trouve que c'est trop... Et ça peut me sortir du film, par exemple. Donc, j'essaye, en tout cas, de faire quelque chose d'intéressant, qu'on puisse trouver beau et qui serve le film, mais sans que ça fasse un effet de signature ou vraiment trop affirmé. Voilà.
Et cet équilibre, justement, entre musique qui prend en charge l'émotion, tout en étant comme ça, cette rivière dont je parlais, Axel Repère le définit d'un terme que je trouve assez joli, de symphonie musicale cachée.
Ah bah c'est joli, ça me va.
Vous citiez Ennio Morricone avec White Dog de Samuel Fuller, donc c'est une des références. Est-ce que Axel Repère, dans votre dialogue, elle s'exprimait, pas en musique, mais en référence, elle vous faisait écouter des choses?
Bah comme je disais, elle m'a envoyé pas mal de choses, mais bien en amont du film. Une fois qu'on a commencé à travailler, ça on l'avait mis de côté. Il y avait donc cette référence à Ennio Morricone, The Unanswered Question de Charles Ives, il y avait le morceau d'Avopart, mais ça finalement ce n'en est pas vraiment, parce que en fait je crois que je me sers au final quand même de choses que je connais. Il y avait du Procolarum dans sa liste de références. Darius Milhaud, on a pendant longtemps, on s'en est servi parce que le jeune qui joue du piano, dont Solange est un peu amoureuse, devait jouer ça au piano. Finalement, on a remplacé, notamment dans l'extrait que vous venez de passer, on a changé la musique. Il avait plus ou moins travaillé. Enfin, j'avais fait une petite partition au piano et ça n'allait pas, ça se mêlait pas bien avec la musique. Donc, j'ai intégré des petites notes de piano à la partition et on a l'impression que ce qu'il joue est à peu près inscrit dans la partition. On a fait ça deux fois d'ailleurs dans le film, des correspondances entre la musique qui se joue dans l'image et la musique qu'on entend, enfin la musique de film, quoi. Il y a ce petit moment-là, et il y a ce moment un peu étrange où quand la scène dramatique qui est vers la fin du film, où juste avant qu'elle croise la fanfare, où elle sort, où elle vient d'apprendre que la maison allait être vendue et que donc ses parents allaient bien se séparer. On la voit errer sur les bords du fleuve à Nantes et elle trouve un petit orgue jeté sur une poubelle et elle se met à jouer. et il y a des sons, un son d'orgue qu'on a inscrit dans la partition. Et d'ailleurs, je suis parti de ça. En fait, je regardais ce que faisaient ses doigts sur le petit clavier. Ça a créé une petite ligne. Et en fait, moi, j'ai ensuite fait la musique autour pour ce passage-là, en tout cas.
D'accord. Alors souvent, les compositeurs interviennent à la dernière minute, ils rajoutent comme ça des ajouts finaux sur un montage fini. Votre collaboration avec Axel Repère n'est pas qu'artistique, elle est vraiment humaine, c'est une amitié de longue date. Donc vous êtes aussi présent dès qu'elle pense le projet, vous êtes là, dès qu'elle écrit le scénario, vous êtes là. Est-ce que vous parliez aussi des placements de musique, qui est une des activités du compositeur de musique de film, et vous avez même retiré des musiques là où elle l'imaginait. Est-ce que dès l'écriture du scénario, c'était déjà réfléchi?
Alors non, j'ai jamais travaillé comme ça. Ça se fait toujours au montage. Alors Axel, elle met pas de musique temporaire, ce qui est bien. Là, je travaille sur un film où ils mettent beaucoup de musique temporaire et qui est, eux, ça leur permet de savoir où est-ce qu'ils veulent de la musique et ça permet à la monteuse, en l'occurrence, de monter en musique. Ensuite, c'est pas toujours évident de remplacer ce qu'ils ont mis en premier.
Parce ils s'y habituent.
Ils s'y habituent. Les maquettes qu'on donne, des fois, ils se disent oui, mais on aimait bien ça. On aimait bien telle ou telle chose. Donc ensuite, il faut analyser. Le White Dog, par exemple, d'Axel, elle me l'avait donné comme référence, mais elle l'a jamais placé. Donc je savais que je pouvais m'en inspirer. Je voyais bien qu'il y avait ces petits staccato de piano là, dans la partition, qu'il y avait ce truc très lyrique. Mais j'ai jamais eu à remplacer la musique de White Dog à tel ou tel moment du film. Et c'est au fur et à mesure où moi, ils me disent on veut de la musique pour telle ou telle scène, donc ils me l'envoient.
Finalement, c'est votre musique à vous qui est une musique de travail, une musique presque temporaire.
Voilà,
vous remplacez vous-même.
Tout à fait, je suis ma propre musique temporaire.
Voilà, c'est ça qui est bien. Petite Solange, nouvel extrait de musique de Benjamin Israfou. On sent à travers ces notes que la partition est traversée par une mélancolie qui est aussi la mélancolie du personnage, de cette petite Solange. Cette note comme ça, qui douloureuse, angoissée, qui est comme une note unique comme ça qui traverse le film. Il y a dans votre musique à la fois la mélodie, c'est ces motifs qui reviennent, et puis aussi un choix d'instrumentation. Vous aimez particulièrement les solistes, hein, ajouter toujours comme ça un instrument.
C'est-à-dire que j'aime les thèmes, en fait. Donc, fatalement, il y a des solistes ou des thèmes qui se répondent. Mais j'ai pas l'habitude de partir d'un thème, parce que je me suis rendu compte que pour les réalisateurs, un thème n'est pas toujours un thème tout seul. Par exemple, un thème au piano ne va pas leur permettre, sous la plupart du temps, de se dire ah oui, j'aime ou j'aime pas. C'est-à-dire que aujourd'hui, comme on peut arranger dès les maquettes, je trouve que c'est plus important de trouver la couleur et la direction, et une vitesse, et généralement les thèmes découlent un peu de ça. Et d'ailleurs, je ne sais pas comment ils faisaient autrefois. Toutes les grandes collaborations qu'on imagine, ils devaient entendre des choses au piano et découvrir la musique le jour de l'enregistrement, ce qui me paraît totalement fou, parce qu'il a produit des choses géniales.
John Williams qui fait les deux notes des Dents de la Mer, et Spielberg devait ensuite imaginer ce que ça allait donner.
Ouais. Voilà. Donc non, là, moi, quand je propose un morceau, je propose avant tout une couleur et presque des arrangements, en fait, parce que j'ai l'impression que c'est ça qui va primer. Et au fil de cette recherche de couleurs, en fait, c'est comme ça que les thèmes, et effectivement, moi, c'est souvent une musique à thème que je fais. Donc, ce qui induit des solos, enfin, des passations du thème d'un instrument à l'autre, effectivement, souvent la flûte.
Ce que vous avez fait aussi avec Alice Elmer de Nicolas Parizère, c'est ce jonglage entre les instrumentations autour d'un thème, le thème et les solistes, et également donc cette musique qui est pensée dès le début comme une mélodie et une instrumentation. Du coup, vous faites dès le début écouté à la réalisatrice, en maquette, le résultat final très tôt?
Oui. Oui, c'est au fur et à mesure, on modifie même les arrangements, etc., au fur et à mesure. C'est là-dessus que se décide souvent l'acceptation, la validation d'un morceau.
Alors, il y a un lien avec l'Italie. Dans votre partition, on parlait d'instruments, vous convoquez la mandoline. Cette musique qui apparaît un peu en contraste de la mélancolie de la petite Solange, qui reflète peut-être aussi cette évasion. Alors il y a la mandoline et puis il y a aussi un aspect un peu de tango, Benjamin.
Oui, c'est vrai, je me disais ça en écoutant. Alors, la famille d'origine italienne, donc il y a effectivement une part italienne, et c'est un des moments du film où la famille se réunit, où Solange va peut-être un peu s'imaginer que finalement tout va bien. Effectivement, la dimension de tango, je la découvre presque en réécoutant le morceau. Voilà. Par contre, ce genre de choses très amusantes à faire, ce genre de pastiche de musique, mais totalement empirique, c'est-à-dire je ne me suis pas du tout mis à écouter plein de musique napolitaine ou je ne sais trop quoi. Effectivement, je pensais mandoline et puis c'était amusant. Je sais pas, il y a même un moment où ils pensaient même à mettre un filtre pour faire un peu vieil enregistrement, mais je sais pas s'ils l'ont fait ou pas. Mmh. Mais enfin bon, la musique, il me semble, est assez évocatrice, c'est assez amusant à faire ce genre de choses.
Vous disiez aussi que la réalisatrice ne mettait pas donc de musique temporaire, mais elle a fait comme une BO cachée du film, avec des chansons en modèle. Elle cite les Beach Boys, elle cite Daniel Johnson, Mark Hollis, etc. Des chansons un peu comme ça qui l'accompagnaient dans le processus.
Alors oui, mais alors ça, nous n'en a pas parlé. Ça, je pense qu'elle doit sans doute écouter de la musique quand elle compose. Moi, elle m'a donné un certain nombre de références que j'ai citées tout à l'heure. Beach Boys, je ne sais plus si elle m'en avait parlé. Mark Hollis, c'est sûr qu'elle n'en avait pas parlé. Bah, c'est la partie vue, bon, effectivement, c'est la partie cachée.
Alors la chanson a aussi accompagné régulièrement votre travail, notamment pour Serge Boson sur La France. Vous avez écrit une partie des chansons, notamment celle interprétée par Sylvie Testu. Faire chanter les actrices, ça fait aussi partie du cinéma et vous l'avez pratiqué. Quel est votre regard aussi sur ce format chanson? Est-ce que quand vous faites une musique instrumentale pour Petite Solange, est-ce que pour vous c'est le même travail que faire l'instrumental d'une chanson?
Non, parce que quand il y a une chanson, ce que j'aime bien quand il y a une chanson, c'est qu'il y a des paroles. Et que j'aime beaucoup partir des paroles. Ce que j'avais fait pour Ingrid Cavaine aussi, pour Belle Dormant, c'était des paroles du réalisateur qui étaient toutes simples. Pour La France, c'était pareil. Pour Don Juan, le prochain film de Serge Boson, il y aura aussi des chansons. Bon, et de la musique. Moi, je me suis surtout concentré sur la musique, mais j'ai quand même participé un peu aux chansons. Et c'est vrai que quand on écrit une chanson, alors là, pour le coup, je trouve qu'on peut vraiment l'écrire en piano-voix, par exemple. Là, ça fonctionne pour faire entendre au départ. Ce serait ça la différence. Et puis, effectivement, le fait qu'il y ait des paroles et puis qu'il y ait possiblement un refrain, alors qu'une musique de film, on peut se permettre notamment des mesures, ça a beaucoup moins de régularité, une musique de film. On peut faire des mesures plus longues, des mesures plus courtes, on s'adapte à ce qu'il y a à l'image. Alors qu'une chanson, c'est quand même souvent un petit peu plus carré. Mais j'ai autant de plaisir à écrire une chanson.
vous retrouvez Serge Boson, avec lequel aussi vous avez un compagnonnage, et vous le retrouvez sur Don Juan, et où vous retrouvez un peu l'esprit de la France, hein, je crois. Est-ce que ça sera dans le même esprit, c'est Don Juan, comédie musicale ?
C'est pas du tout dans le même esprit, puisque là, il y a trois comédiens qui chantent. Bon, un est chanteur, c'est Alain Chamfort. Et les deux autres sont Tahar-Raïm et Virginie Efira, qui se trouvent chantaient bien. Et donc, on a travaillé avec eux, quand on a quand même répété avec eux. Mais ça n'aura pas celle de la fragilité, le côté bricolé de la France du tout. Et on a enregistré même carrément un orchestre, c'est de la musique symphonique derrière, si vous voulez. Mm-hmm. Donc, ce sera très, très différent de ce point de vue-là.
La comédie musicale fait aussi partie de votre cinéphilie, j'imagine ?
Bah oui, j'aime bien les comédies musicales. J'aime beaucoup les films de Minelli ou les comédies musicales avec Fred Astaire ou Gene Kelly. Mais c'est pas... Enfin, c'est très très loin de nous, quoi.
Mmh. Pour vous, votre travail de compositeur de musique de film, c'est presque faire une musique invisible. Et pour vous, la comédie musicale, vous la mettez à part ?
Bah, je la mets à part parce que c'est un genre qui est quand même très 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 particulier. Enfin, c'est peut-être le genre le plus particulier, je trouve. Le fait que des gens chantent se mettent à chanter comme ça, ou plus ou moins dans un film. Dans le Don Juan dont vous parlez, il y aura effectivement des moments de décrochage où tout d'un coup, les gens se mettent à chanter, mais il y a... peut-être 7 ou 8 chansons à peu près dans le film. C'est pas du tout chanté du début à la fin. Par contre, il y a une musique qui est une musique de film qui prend le relais des chansons, qui est assez présente. Il y en a pas tout le temps, mais je sais pas, on doit avoir quand même 50 minutes de musique sur un film d'une heure, je sais pas combien, 1h40, 1h30, 1h40.
Qui prend en charge l'aspect romanesque du...
Ouais, le côté sombre du personnage.
Ah oui. Voilà. Très bien, très bien. Et pour revenir à la France, donc, Sylvie Testu, comme beaucoup d'actrices qui ne chantent pas particulièrement, enfin, c'est pas une voix de chanteuse, non, oui. Vous avez travaillé aussi en coach vocal pour elle ?
Je travaillais avec Mehdi Zanad, qui lui est plus chanteur que moi, donc la partie coaching, c'était plutôt lui. Elle ne chantait pas dans le film, elle chantait sur la BO. On avait repris le morceau où c'est comme clin d'œil, où c'est elle qui chantait, mais dans le film, ce n'est pas elle qui chantait. Alors que dans le film de prochain film de Serge Boson... c'est Tahar-Raïm, surtout, qui chante, et Virginie Fira un peu.
Très bien. Eh bien, souvenons-nous, la France, Serge Boson.
J'ai rencontré un Turinois à 20 ans. Certaines choses sont belles. Car les choses que les hommes ont faites.
La voix de Sylvie Testu à l'instant dans une chanson de Benjamin Esdrafo. Et je rappelle donc Petite Solange actuellement dans les salles d'Axel Repère avec aussi cette musique donc instrumentale, mélancolique de Benjamin Esdrafo.
J'écoute uniquement les chansons parce qu'elles disent la vérité.
Et je me dirige maintenant vers Xavier Polycarpe. Rebonjour.
Rebonjour.
On parlera donc d'Animal, ce documentaire de Cyril Dion. Mais avant cela, vous avez aussi un lien avec la chanson. Vous appartenez à des groupes comme Gush ou Macadam Crocodile. Vous avez également donc fait une première entrée dans le cinéma avec le film d'Antoine de Maximy, J'irai mourir dans les Carpates. Pour vous, comment s'est produite la transition entre ces chansons sur album et la musique à l'image?
En fait, avec Gush, oui, il y a donc ce film d'Antoine de Maximy l'an dernier, mais avec Gush, on avait fait aussi des musiques de films. Le premier, c'était Paris Will Be, et c'était en 2000, peut-être 15 ou 16, je sais plus bien. Non, c'était en 2014. Et après, on a fait Five de Igor Gottesman, qui était une comédie avec Pierre Ninet, François Civil, un peu les jeunes... la relève des acteurs voilà, un peu génération jeune et donc après oui en solo j'ai fait la musique d'Antoine de Maximy en 2020, donc j'avais déjà un peu cet aspect, j'avais expérimenté avec Gush l'aspect musique de film, mais on nous avait contacté parce qu'on savait ce qu'on faisait, donc c'était un peu pour ils avaient envie d'avoir des trucs un peu pop. Alors qu'Antoine de Maximy, pour le coup, lui, dans son film, il voulait pas de musique. On en parlait tout à l'heure. Il m'a dit, ouais, bah, on m'a dit qu'il fallait un peu de musique, donc il faut mettre de la musique. J'étais d'accord. Bon, bah, je vais essayer de. Donc, on a expérimenté plein de choses pour arriver à quelque chose de satisfaisant. Enfin, c'est quelque chose que je fais en parallèle, quoi, que je veux continuer à faire en parallèle de mes activités d'albums, de tournées, tout ça.
Et dans la musique de film, il y a l'idée de faire appel à des compositeurs pour retrouver le style très identifié que l'on connaît et qu'on l'aime d'eux, et aussi les compositeurs qu'on appelle dans leur esprit de caméléon, capables de s'adapter à tous les univers. Et vous, votre passage à l'écran, c'est aussi un passage vers une plus grande liberté de style, peut-être ?
Bah donc dans les premiers cas, enfin les exemples que je donnais tout à l'heure, oui, on venait nous chercher parce qu'on connaissait Gush, donc on voulait un peu cette patte musicale. Et avec Antoine, pour le coup, Antoine de Maximi, c'était vraiment, voilà, c'était plus libre. Il connaissait pas Gush, il connaissait pas mon parcours. C'était une boîte de prod qui m'avait proposé pour faire la musique. Donc là, c'était instrumental. Et alors que c'est vrai qu'avec Gush, notre particularité c'était de chanter, mais bien qu'on fait aussi un peu de musique instrumentale. Donc oui, ça, d'un coup, le chant est plus libre, on peut se détacher de la signature dont on parlait Benjamin tout à l'heure. On peut expérimenter d'autres territoires.
Et pour Animal, donc, Cyril Dion avait déjà signé un documentaire Demain avec la compositrice Frédérique Astal. Ouais. Et là, donc, nommé d'ailleurs au César du meilleur documentaire, on attend de voir dans quelques semaines, un documentaire sur les questions écologiques. Est-ce que l'idée de vouloir des chansons était le désir initial pour faire appel à vous ?
Je ne suis pas le seul compositeur. On a co-composé avec mon ami Sébastien Hogg, qui est musicien aussi. Je pense qu'il a dû jouer avec toi, peut-être avec Barbara, ou je sais pas. Mais on a composé la musique à deux. Pour ce film, il s'est parti vraiment de chansons. Donc lui, il nous connaît en tant que musicien dans ce qu'on fait. Il se trouve qu'on était à son anniversaire, parce qu'on est devenu pote avant avec Cyril, et qu'on a passé une soirée à jouer pendant 4 heures avec Seb, plein de standards sans avoir vraiment répété. Et je me demande si ça a pas joué dans le déclic qu'il a eu de nous demander de faire la musique. Et lui, il part vraiment de la musique pour construire son film, ce qui est assez rare en fait.
Surtout pour un documentaire.
Bah en fait, pour un documentaire, c'est peut-être plus envisageable que pour parce qu'il y a pas de le scénario, il est écrit, mais il est très modulable en fonction de ce qu'ils vont pouvoir tourner comme images. Il nous a demandé plein de matières pour monter son film.
Ah oui, intéressant.
Donc on a, et puis il voulait beaucoup de chansons. Il adore les Beatles, il adore un peu le rock un peu 70s. Il avait vraiment envie d'avoir de la matière chantée pour faire des transitions. Des fois, dans le documentaire, ça change de pays pour faire des petites pages musicales pour qui servent de charnière entre des scènes.
Et pour que la musique prenne pas trop de place, on en parlait avec Benjamin Esdrafo, c'est-à-dire que dans ce documentaire, on suit le parcours de ces deux adolescents, Bella et Vipulan, et donc le film est avec beaucoup d'entretiens, il y a beaucoup d'échanges, et donc j'imagine qu'il fallait pas que la musique parasite les mots échangés. La musique était plutôt là dans les transitions, dans les interstices.
Ouais, pour le coup, c'est la première fois, j'ai fait donc 5 films, et c'est la première fois où je n'ai pas, enfin un peu vers la fin, où je n'ai pas travaillé à l'image. C'est-à-dire qu'on a donné beaucoup de matière, des fois c'était des démos, forcément, c'est des choses qui sont en construction. Et il a pioché, on a fourni vraiment beaucoup de choses. Il a pioché dans ce qu'il voulait il voulait des moments un peu ambiants, des vraies chansons, des trucs un peu plus grandiloquents. Donc on donnait un peu de la matière comme ça. On était juste inspiré du scénario qu'il imaginait, mais on n'a pas vu les images avant un certain temps. Donc on n'a pas vraiment écrit à l'image, quoi.
Et donc c'est le réalisateur qui, lui, à partir de cette matière, a géré les placements.
Oui, avec Sandy, la monteuse, Sandy Bompard.
Alors là, dans la plupart, il y a des chansons, on y reviendra, mais il y a aussi des instrumentaux, et même dans les instrumentaux, on retrouve l'esprit rock, avec guitare, batterie, clavier.
Oui.
Un des thèmes, qui est le thème de Bella, la jeune adolescente, la jeune fille. Et donc ça, c'était le réalisateur qui a dit « ce thème sera celui de Bella », ou alors vous aviez quand même déjà anticipé ?
Ce thème, je l'ai appelé « Bella's thème », en me disant « tiens, ça pourrait être le thème de Bella ». Mais après, il apparaît pas forcément en particulier pour Bella, s'appelle Bella's Theme, mais il est utilisé dans une séquence où on voit des éléphants, où effectivement ils sont là tout au long. Enfin, il n'y a pas trop de romance, on va dire, de musique qui colle pour souligner l'émotion d'un personnage. Je l'ai appelé Bella mais ça reste très documentaire. Réel, quoi.
Donc c'est intéressant, vous avez fourni de la matière, vous avez un peu orienté en nommant vos morceaux, mais après le réalisateur en faisait un peu ce qu'il voulait.
Ouais, oui, tout à fait.
Et bien écoutons ce Bella's Theme. Thank you. De Cyril Dion avec cette musique donc de Xavier Polycarpe avec donc cet instrumental où l'on reconnaît ce thème au piano qui circule comme ça, et puis il y a une progression avec à un moment donné l'ajout d'une rythmique. Ce documentaire donc sur des questions écologiques, sur la sixième extinction de masse des espèces, donc il y a quand même un propos d'une gravité extrême, une angoisse aussi chez ces deux personnages entre guillemets, ces deux adolescents, mais le credo de Cyril Dion n'est pas de traiter cette angoisse, c'est au contraire d'être positif, de trouver des solutions, et la musique participe à cette détermination positive.
Oui, c'est vrai qu'il a pas envie d'être déprimant, bien que ça c'est des sujets qui peuvent l'être. Il essaye de mettre aussi un peu de poésie. Enfin, je trouve qu'il y a un peu de poésie même dans le film, au-delà du truc très terre à terre de il faut faire ça parce qu'il se passe ça. Ça reste très humain et solaire malgré tout. Voilà, il propose des idées. Il met beaucoup d'humain, quoi. Donc ça, c'est assez nourrissant, et c'est même si voilà le thème est assez un peu qui peut faire peur, quoi. Ça reste humain.
Et les chansons écrites pour le film créent comme ça une espèce de voix complémentaire, parallèle, ce hors-champ chanté qui n'est en rien justifié par l'image. C'est ça toute la beauté, je trouve, la force poétique de ce documentaire et de la démarche de Cyril Dion. Et l'une des références était les Beatles.
Oui, entre autres, parce qu'on a effectivement, à son anniversaire, on avait joué beaucoup de Beatles, donc il était. Et puis il sait qu'on aime bien, donc forcément, il a dit ouais, on pourrait faire des pop-songs un peu. Puis c'est que on aime faire du, enfin moi avec dans Gush ou dans la musique que je fais, c'est voilà, c'est la musique pop, donc les Beatles.
Dans la matière que vous avez fournie, est-ce qu'il y avait d'un côté des instrumentaux, de l'autre côté des chansons, ou alors parfois il a pris les instrumentaux de chansons?
On a fourni, non, il y avait beaucoup d'instrumentaux et quelques chansons, et il a pris dans ce qu'il y avait, voilà, il nous a pas trop demandé de changer. Mais il y a aussi des titres des fois qu'on a donné en référence, je pense à Au Long de Path. On s'enregistre des fois sur le téléphone un petit mémo vocal de ce qui pourrait être une chanson, et il l'a mis dans son montage un peu tel quel, et puis je lui dis je vais en faire des paroles, tout ça. Et puis j'ai fait 3-4 versions avec des paroles. Non, il a gardé la version yaourt, premier jet enregistré sur le téléphone, avec la qualité téléphone, quoi. Il l'a gardé dans le final parce que ça allait bien avec le côté un peu démo. C'est une séquence où on voit Jane Goodall avec des singes, et il trouvait que c'était bien. Donc c'est vrai qu'il y a toujours une petite magie quand on fait une démo, des fois, d'un truc assez spontané qui est difficile à retranscrire après quand on produit vraiment le titre. Et j'ai trouvé ça aussi marrant qu'ils gardent ça. Mais après, au final, j'ai fait une version avec des vraies paroles quand même pour la BO.
Ouais, pour la BO, il n'y a pas cette version Yahoo.
Non, elle est dans le film, mais pas dans la BO qu'on a sorti.
Eh bien, la version propre de ce morceau. Knock at your door, I know that gold is in your heart. It seems so clear since you have broken all the mirrors. A simple smile won't change the course of the sun. May help this world be a better place than when I came in. Look at the blue sky today. I wanna give to everyone I meet, and it is you forever. Praise who radiate in everybody's heart. At your door, I know that gold is in your heart. It seems so clear since you have broken all the mirrors. A simple smile won't change the course of the sun. May help this world be a better place than when I came in. Look at the blue sky today. Everyone I meet, and it is you forever praised to radiate in everybody's heart. Animal avec cette chanson Along the Pass. Cette pop comme ça qui traverse ce documentaire, qui apporte ce côté positif aussi à la question écologique, qui est cette matière que vous avez fournie en amont. Donc la chanson, est-ce que vous l'avez faite comme une chanson que vous pouvez le faire pour vos albums, ou alors malgré tout vous avez pris en charge le récit, quelque chose que le réalisateur vous avait transmis
dans les textes? Oui, j'ai orienté un peu par rapport à la thématique du film. Mais après, les compositions, elles viennent un peu comme ça. Ouais, c'est surtout pour les textes que j'ai orienté, en tout cas ce qui me concerne. C'était au début de la pandémie, donc avec Sébastien, malheureusement, on était chacun dans un studio, on n'était pas ensemble. Donc on fournissait chacun de notre côté de la matière. Voilà, je voulais rajouter ça aussi.
Il y a aussi un titre, Simple as Can Be, je crois, qui était dans un de vos albums, qui est considéré, je crois, comme le premier morceau que vous avez vraiment composé en solo, sans votre groupe.
Oui, alors j'ai pas encore sorti d'album solo, c'est le premier titre que j'ai sorti, Simple as Can Be, que j'ai sorti un peu en amont du film, mais il était, je l'ai sorti un peu en amont, il est considéré comme un titre préexistant, mais il a été vraiment... conçu au moment du film.
D'accord, bah écoutons Simple as Can Be, tiré donc de la BO d'Animal par Xavier Polycarpe. Spring-a-ling-a-ling, hey. All those colors through the rain. Isn't it the sun making it sway? When I look around, simple as can be, it never stops amazing me. Oh, Simple as Can Be, tiré de la BO d'Animal, donc par Xavier Polycarpe. Alors là, on a vraiment voilà, ce format chanson qui est parfaitement bien intégré par Cyril Dion dans son documentaire. On demande aussi de plus en plus, et Benjamin Esdrafo va le confirmer, j'imagine, on demande de plus en plus aux compositeurs d'aujourd'hui de savoir tout faire en studio, de pouvoir livrer des maquettes, comme on le disait, définitives, et justement de faire des albums au préalable dans votre parcours. Ça aide à devenir compositeur de musique de film.
Oui, moi j'ai toujours fait à la maison depuis tout le temps. On produit nos disques avec Gush, on a produit nos disques avec Macadam Crocodile aussi. Donc j'ai mon studio, j'ai mon home studio. Et puis bah on devient quelque part producteur. C'est vrai que c'est nouveau. À l'époque, on ouvrait un studio, on allait faire une session. Après pour ce type de musique. Qui reste avec des instruments classiques. Après, quand on doit faire un orchestre ou quoi, c'est sûr que là, on est obligé de passer par la case gros studio. Bien que maintenant, il y ait des plugs, tout ça, des plugins qui puissent aider, c'est quand même toujours un peu plus qualitatif quand on passe avec un vrai orchestre. Donc voilà.
Le profil des musiciens de film évolue aujourd'hui et on n'est plus uniquement dans des compositeurs d'orchestre, même si vous pouvez éventuellement faire de l'orchestre. Mais en tout cas, il y a cette plus grande versatilité des profils. Et vous, par exemple, votre cinéphilie également peut vous amener à avoir un désir de musique de film sur d'autres types de films.
Ouais, c'est vrai que avec Gush, on avait fait pas mal de comédies. Donc la pop ça allait très bien. Avec Antoine de Maximi, c'était plus de la fiction, plus instrumentale. Il voulait qu'on ait des sons un peu samplés de la vraie vie, des bruits de ressorts, de chaises. C'était une expérience un peu différente. Mais j'aimerais bien continuer à explorer et à ouvrir le spectre de ce que je peux faire.
Et vous ne quittez pas totalement la scène, car d'ailleurs on peut vous retrouver dans quelques semaines, je crois le 23 février à 20h en concert.
Oui, donc en parallèle de Macadam Crocodile, qui est le groupe avec lequel le duo avec lequel je continue beaucoup de tourner, je développe mon projet solo, dont Simple As Can Be était le premier extrait. Il y a eu la BO qui est sortie, puis je vais continuer à sortir des titres et au compte-gouttes comme ça avant de peut-être sortir un album, et donc je serai au pop-up du label donc le 23 février à 20h30.
Le pop-up du label, et vous jouerez des chansons pour Animal.
Je jouerai donc des titres issus d'Animal qui sont un peu les plus pop, les chansons chantées quoi, et je serai accompagné de musiciens certainement, et des nouveaux titres qui sont pas encore sortis mais qui sont dans la lignée de ce qu'on vient d'entendre, Simple As Can Be quoi.
Très bien, le 23 février à 20h donc. D'ailleurs, par rapport aux chansons d'Animal, est-ce qu'il y a l'esprit de groupe, est-ce que ce sont les mêmes instrumentistes pour toutes ces chansons?
On a tout fait à deux avec Seb quasiment. Il y a sur quelques titres, on a fait venir mon frère qui est batteur. C'est la seule exception. Donc c'est assez. On a tout, comme je disais tout à l'heure, on était chacun dans le studio, donc on a pas mal joué chacun sur nos titres à nous personnellement. Et puis dès qu'il y avait des moments où c'était plus confinement, tout ça, on a essayé de se voir pour vraiment essayer de mettre un ciment entre nos deux univers. Donc là, on n'a pas entendu de morceau de Seb, mais on a essayé d'avoir une touche un peu commune, 70s. Et des fois, j'allais jouer sur ces titres un peu pour faire le lien, et puis lui avec moi aussi.
Mm-hmm. Benjamin Esdrafo, vous reconnaissez dans pas mal de choses qu'on vient d'évoquer
Oui, dans les références, oui. Ensuite, c'est vrai que j'ai l'impression que ça a l'air très chouette, mais ça a l'air très différent. Parce que moi, il n'y a pas du tout. Là, c'est pas, y a rien de pop, en fait, dans ce qu'on me demandait. Mais non, et puis en plus, je connais effectivement très bien la personne avec qui il a travaillé pour avoir joué avec lui à différentes reprises par le passé.
Et vous, Benjamin, vos prochaines actualités?
Je travaille sur le film de Nicolas Pariser.
Après Alice et Mère.
Voilà, qui s'appelle Le Parfum Vert, qui est une comédie d'espionnage. Voilà, avec une musique beaucoup plus riche, enfin ample, que ce qu'on avait fait pour Alice et le Maire. Mais c'est vraiment en cours, là. Voilà, j'y retourne juste après. Voilà.
Ah, bah super, super. Bah, merci Benjamin Esdrafo. Merci Xavier Polycarpe. Donc, Petite Solange d'Axel Repère, toujours dans les salles. Et puis Animal, également dans quelques salles. Et puis Animal, donc de Cyril Dion, est nommé pour le documentaire, pour le César du meilleur documentaire, auprès de Debout les femmes de François Ruffin, Inde Galante, un film documentaire musical de Philippe Béziat, Bigger Than Us de Flore Vasseur. Donc, on croise les doigts. Et on va se quitter avec une des musiques qui est nommée pour la meilleure musique au César, comme pour le meilleur documentaire, La Panthère des Neiges, Warren Ellis et Nick Cave. Ils viennent de la chanson et du rock sur scène. On se quitte avec cette Panthère des Neiges. Merci à vous, au revoir, à bientôt.
Au revoir, merci.